Shabbat Shalom. Il y a quelques jours, nous sommes partis en Israël avec un petit groupe d'étudiants. Et là-bas, en Israël, les Juifs accueillent le sabbat comme une reine. Donc le sabbat est personnifié, c'est une reine pour laquelle on se prépare, pour l'accueillir lorsque le Shabbat commence. Et ce soir, c'est vraiment un privilège pour moi d'être parmi vous pour clôturer cette série de soirées où on a regardé Jean 17, cette prière sacerdotale du Christ qu'il a prié pour nous. Il a pensé à nous, en la disant. Et aujourd'hui, oui, c'est le nom. Le nom. Lundi, on a parlé du Père et du Fils. Mardi, c'était le verbe « connaître » et « la vie ». Mercredi, « le monde ». Jeudi, « être un » et « hat », « l'unité ». Et aujourd'hui, « le nom ». En fait, c'est un terme récurrent dans Jean 17, « le nom ». Et je vais lire les versets où se trouve ce mot « nom ». Et ça commence au verset 6. Donc le Christ qui prie, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » J'ai manifesté ton nom. Et il s'adresse à son Père. Verset 11b. Père Saint, je lis la deuxième partie. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux n'est perdu. Et le verset 26, c'est le dernier verset dans ce chapitre-là. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Est-ce que vous avez remarqué la première occurrence? J'ai manifesté ton nom aux hommes. Et la dernière occurrence, je fais connaître ton nom et je le ferai connaître. Donc le Christ qui fait connaître ce nom du Père. Il faut dire que dans l'Antiquité, le nom est important, encore plus important qu'aujourd'hui. C'est vrai, on porte un nom, à la naissance on reçoit un nom. Mais je suis sûre qu'il y a quelques hommes parmi nous qui ne connaissent pas forcément la signification de leur nom. J'ai la chance d'avoir un nom hébraïque. Donc moi, je connais la signification de mon nom, Daniela, donc Dieu est mon juge. Mélanie, c'est ma sœur, c'est déjà plus compliqué. Mais voilà, le nom dans l'Antiquité, ça renvoie à l'identité d'une personne, au caractère d'une personne, sa manière d'être, la destinée d'une personne, ou c'est la personne dans son entièreté, son histoire. Son vécu, son honneur. Et lorsque la trajectoire de la vie change, le nom change. Donc le nom est important. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce nom de Dieu. En fait, il y a un verset dans le livre de l'Exode, deuxième livre de toute la Bible, deux versets qui sont les versets les plus cités par les auteurs bibliques. Et c'est Exode 34, versets 6 à 7, le nom de Dieu. Et j'aimerais lire ce passage avec vous. Donc Exode 34, versets 6 à 7. Moïse est sur la montagne et il aimerait voir Dieu. Et Dieu va le mettre dans une cachette et il va passer devant lui. Et Dieu va dire son nom. Et en fait, que Dieu a un nom personnel, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu, c'est un titre. C'est comme monsieur ou madame, ou femme ou homme, c'est un titre. Mais Dieu, il a un nom personnel. Il s'appelle Yahvé, je dirais. Ok, Exode 34, verset 6 et 7. Là, le texte dit Yahvé, Yahvé, ou l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fit grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Voilà deux versets qui sont cités tout le temps, des bribes de ces deux versets, pas tous les versets. Et là, le nom de Dieu. Donc, là, on a la révélation du nom de Dieu au monde. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelques idées. Donc, c'est un Dieu compatissant. Et le premier ingrédient, c'est l'ingrédient le plus important. C'est comme si vous achetez une boisson et vous regardez la liste des ingrédients. Tout d'abord, il y a l'eau. C'est encore une bonne ingrédient. Mais après, souvent, c'est le sucre. Mais si vous voyez sucre, vous savez, d'accord, il y a beaucoup de sucre. C'est normal. Et on ne devrait pas acheter. Mais je sais, on achète. Hein. On achète. D'accord ? Mais c'est un peu comme ça, la liste des ingrédients. Et le premier ingrédient, c'est compassion. C'est la compassion. Donc, Dieu, il est compatissant. Il a de la compassion. Il lit toutes les biographies humaines et il comprend, il compatit. Et d'ailleurs, c'est une qualité féminine parce qu'en hébreu, c'est rachum. Et rechem, c'est le ventre de la maman. Donc la première qualité de Dieu est une qualité féminine. Et vous savez, toutes celles qui sont mères, et même les papas, lorsque le bébé naît, il y a un lien mystérieux qui est là, qui est indestructible. Une maman va aimer son bébé jusqu'au bout. Et c'est le premier ingrédient de Dieu, compassion. Compassion, il est compatissant. Et en plus, il fait grâce. Il fait grâce. Et le texte va dire qu'il est pardonnant. Il y a des participes dans ce texte. Il est pardonnant. Et le texte mentionne la faute, le péché, l'iniquité. Il mentionne trois termes en hébreu. En fait, un terme aurait suffi pour comprendre qu'il pardonne. Non, mais l'auteur, il va présenter trois termes pour parler du mal, pour dire c'est un Dieu qui pardonne réellement tout, tout, tout. Toute la panoplie des termes hébraïques pour dire péché. Il pardonne. C'est un Dieu avec lequel on peut recommencer. Même si on a un passé compliqué, on peut recommencer. Il pardonne. Et il garde sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Donc là aussi, les termes, il parle en hébreu, c'est beaucoup plus profond. Là, vous avez un terme qu'on ne peut pas traduire. Là, l'auteur traduit par bienveillance. Mais on pourrait dire bonté, amour, charité, grâce. Tous les qualitatifs positifs de Dieu sont englobés dans ce terme-là. Il les garde, il conserve. Et après, ce Dieu, oui, il est compatissant, clément, riche en bonté et en vérité, en loyauté, fidèle jusqu'au bout. Mais il ne sera jamais le complice du mal, même pas au nom de l'amour. Parce que le mal est une menace pour l'existence. Le mal ravage, le mal est l'interruption du relationnel. Et il ne se fera jamais complice du mal, parce que le mal est une menace à l'amour et à la vie. Mais la dernière partie, elle est compliquée, je sais. Moi, je la lis, hein, la déclaration qu'il punit la faute des pères, etc. En hébreu, vous avez un terme qui peut être traduit par punir, oui, mais aussi dans le sens positif de visiter. Donc, c'est un Dieu qui est là pour libérer les fils et les petits-fils de tous les maux qu'on peut rassembler dans une histoire de famille. Vous voyez, il s'occupe de nos biographies, de notre passé, et il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on soit libre de son passé. Vous voyez, la famille a un grand impact sur nous tous. On est tous marqués par notre enfance. Et là aussi, l'amour est réparti de façon injuste. Je sais, il y a des gens qui grandissent dans des familles aimantes et qui peuvent s'épanouir, et d'autres dans des foyers cassés, seuls, abandonnés, brisés. Et c'est un Dieu qui voit cela et qui s'occupe de cela, et qui veut guérir, récupérer, cheminer pour libérer les fils et les petits-fils. Maintenant, le nom. Là, on a le nom de Dieu révélé au monde. Mais le nom, il joue vraiment un rôle important à travers l'univers biblique. Et j'aimerais partir maintenant dans une réalité, dans l'Antiquité, qu'on appelle Goël. C'est un terme hébraïque, Goël. Et ce terme, il est traduit différemment. Le Goël, c'est le proche parent, par exemple, sur le plan horizontal entre nous, entre les humains. C'est le proche parent qui rachète une terre qui appartient à sa famille, pour que la famille puisse avoir tout le territoire qui lui appartient, si jamais elle a dû vendre une partie du territoire. Et le Goël a cette fonction, d'accord? Donc, une terre perdue, ça devrait nous parler. Parce qu'en tant que famille humaine, on a perdu notre terre. On a perdu le paradis. Et le Goël est là, hein, plus tard, dans la législation du Pentateuque, pour acheter une terre perdue. Mais le Goël, il est aussi le proche parent qui doit se marier avec la veuve d'un frère pour que la famille puisse continuer, pour que le nom d'une famille puisse continuer grâce à l'enfant qui est né et qui porte le nom. Parce qu'il faut comprendre que dans Israël, dans l'Antiquité, une famille qui n'a pas de descendants, une famille dont le nom s'arrête parce qu'il n'y a pas d'enfant, c'est une malédiction. Et Dieu fait tout pour que la continuité de cette famille puisse être une réalité, pour qu'il y ait le nom qui continue. D'accord ? C'est l'Antiquité. Ce sont des lois qui sont un peu étranges pour nous, j'avoue. Mais dans l'univers biblique, Dieu est appelé le Goël de l'humanité. Le Goël de l'humanité. Et normalement, c'est traduit par rédempteur. Si vous prenez le prophète Ésaïe, ça parle du rédempteur. Donc, en d'autres termes, Dieu, il est le proche parent de la famille humaine qui rachète, qui rétablit la terre perdue. Mais c'est aussi celui qui se porte garant pour que le nom de chacun d'entre nous puisse continuer, pour que la famille humaine ait un avenir, une continuation au-delà de la mort. Et là, j'aimerais prendre un passage dans le prophète Ésaïe où Dieu est appelé Goël. Et c'est le prophète Ésaïe, donc 8e siècle avant notre ère, Ésaïe 43, verset 1. Et ces paroles s'adressent à nous. Ces paroles s'adressent à tout être humain à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Ainsi parle maintenant l'Éternel. L'Éternel qui s'est révélé à Moïse sur la montagne. Qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Là, on a le verbe, Gaal. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, etc. Verset 4. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte. Tout être humain a un nom unique. Et tout être humain a du prix aux yeux de Dieu. Et tout être humain est aimé par Dieu. Le nom qui doit continuer. Donc la mort et la rupture n'ont pas le dernier mot. Un dernier texte dans ce prophète Ésaïe. Au chapitre 56, verset 5. Et ça parle des hommes et des femmes qui s'attachent à l'Éternel, à Yahvé. C'est le nom propre de Dieu. Et ces hommes et ces femmes, ils feront partie de la maison de Dieu. Et là, Dieu dit, « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. » Savourez ces paroles. « Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. » C'est le goël de la famille humaine qui s'engage et qui ferait ce chemin, un chemin de liberté et d'amour. Et je pense que nous avons un Dieu qui a une grandeur intérieure extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais son amour n'est pas aveugle, mais il aime jusqu'au bout. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui raconte la grandeur intérieure d'un être humain. Mais si un être humain peut avoir une telle grandeur intérieure, à tel point, mais d'autant plus Dieu. Et ça raconte l'histoire d'un comte qui a un château qui se trouve sur une petite colline. Et ce comte, il est riche, il a une récolte qui est là devant lui et tout est prêt à être récolté. Les champs sont prêts à être récoltés. Et son territoire, il est au bord d'une fleuve. Et de l'autre côté de ce fleuve, il y a un petit village où habitent les gens un peu pauvres, etc. Et là, l'homme qui s'occupe de sa récolte ou de son territoire, les deux traversent les champs et normalement, une fois par année, ce fleuve, il déborde. Et on a établi des digues des deux côtés pour que le fleuve reste bien dans son lit. Mais cette année, le fleuve, il a beaucoup d'eau. Et l'homme dit au comte, mais monsieur, cette année, la digue ne tiendra pas. Mais soyez assurés, notre digue est meilleure que la digue de l'autre côté. Donc la digue de l'autre côté va briser. Notre récolte sera en sécurité. Et le comte, il rentre chez lui, il se couche. Et pendant la nuit, dans le silence de la nuit, il se lève. Et il est très très prudent pour ne pas réveiller les autres. Il va dans son étable, il selle son cheval et il prend une pelle. Et il fait sa trace, il trace sa route dans la nuit avec son cheval. Il va au digue ou à la digue et il commence à creuser un trou dans la digue de son côté. Et vous pouvez vous imaginer la suite. Sa récolte, elle est inondée. Et finalement, il rentre et voilà, il fait semblant de... Voilà. Mais le lendemain, la récolte du comte, elle est endommagée. Il n'y a plus rien. Il n'y a que de l'eau. Mais finalement, le village de l'autre côté, qui a réellement besoin de se nourrir, qui a besoin de cette récolte, la récolte est là, la digue a tenu. En quelque sorte, nous avons un Dieu qui a creusé sa propre digue, qui s'est rendu vulnérable pour que nous puissions vivre. Grandeur intérieure. Et lorsque ce Dieu était sur terre, on l'a méprisé, on l'a trahi, on l'a abandonné. Mais malgré tout cela, la peur d'être blessé par nous ne l'a pas empêché de se donner à chacun d'entre nous. Et c'est un privilège d'avoir ce Dieu qui a un nom et qui va donner un nom particulier, singulier, unique à chacun d'entre nous. Et ce nom est gravé dans ses mains. Que Dieu vous garde. Shabbat Shalom.
Merci beaucoup, Daniela, pour ce magnifique message. Pour le temps de prière de ce soir, je voulais vous inviter à faire des petits groupes de 3 ou 4 personnes avec qui vous voulez, les gens qui sont à côté de vous ou d'autres qui sont plus loin. Gênez-vous pas de vous déplacer, il n'y a aucun souci. Et puis, je voulais vous proposer quelques sujets, mais bien sûr, vous pouvez rajouter ceux qui vous viennent à l'esprit pendant la prière. Le premier que je voulais vous proposer, c'est que ce qu'on a vécu cette semaine, tout au long de la semaine, eh bien, ne reste pas lettre morte, mais que le Seigneur continue à nous parler, à nous faire réfléchir, à nous faire grandir dans tout ce qu'on a entendu cette semaine. On peut le remercier aussi pour son pardon, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pour le don qu'il a fait pour chacun de nous, qui nous permet d'avancer, de continuer et surtout d'avoir une vie renouvelée et pardonnée. Le deuxième sujet que je vous invite, c'est nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui n'ont pas pu être présents, que ce soit pour une question de maladie, de travail ou autre, eh bien, qu'on puisse les porter dans notre prière. Si vous avez des noms, eh bien, vous pouvez mentionner les noms dans vos petits groupes, que le Seigneur les bénisse et qu'ils puissent aussi, eux, vivre, avoir vécu, mais vivre encore des moments bénis avec le Seigneur, comme nous en avons vécu cette semaine. Et puis, pour terminer, le troisième sujet que je voudrais vous proposer, c'est de prier pour nos 2 communautés réunies, donc Vivo et La Cluse, ensemble. Je vous remets ça sur le cœur et je vous invite maintenant à vous répartir dans des petits groupes. Et prenez votre temps, on a le temps de prier ensemble. Merci. J'espère que vous avez tous eu le temps de finir la prière et je vous invite maintenant à chanter avec l'équipe de louanges.